Bonsoir, ici Philippe Corbet, le chef du service politique de BFM TV. Nous sommes le dimanche 30 janvier et nous venons d'enregistrer un nouvel épisode de notre podcast, notre balado avec Perrine Vasque, vous le savez, qui suit particulièrement la gauche. Un épisode consacré à la primaire populaire. Les résultats viennent d'être annoncés. Sans surprise, Christiane Taubira l'emporte avec tout un système de notes dont on va parler dans cet épisode, avec bien plus Yannick Jadot, assez bien plus Jean-Luc Mélenchon, assez bien moins Pierre Laroutourou, passable plus Anne Hidalgo, passable plus. Qu'est-ce que c'est que ce système de notes? Est-ce que ça change quelque chose? On en est quoi? À 7 candidats socialistes, 7 candidats de gauche à la présidentielle, à 70 jours du premier tour. Bref, la gauche n'est pas en bonne situation pour accéder au second tour. Puisque nous sommes le 30 janvier, ça veut dire que le choix des Français, donc le second tour, c'est dans 84 jours. Salut Perrine.
Salut Philippe.
Bon alors, tu étais à l'endroit où ont été annoncés les résultats de la primaire populaire, c'est ça? Et tu pars rejoindre Christiane Taubira?
Oui, voilà. Non, nous, c'est l'inverse, en fait. On était avec Christiane Taubira.
D'accord,
dans son QG au point éphémère. Et puis, on part en direction de là où étaient les organisateurs de la primaire populaire, qu'elle va rejoindre. Et tu sais, elle va signer le contrat d'engagement de la primaire populaire.
Bon, moi, j'ai regardé ça. Je regardais la diffusion en direct sur BFM TV déjà dans les résultats. Franchement, je ne pouvais penser qu'à une phrase qu'on avait évoquée dans un podcast précédent, la phrase prononcée par Christiane Taubira à Lyon, je ne serai pas une candidature de plus, quoi. C'est quand même ça qui se passe.
On m'a dit une bonne punchline, là. L'un de ses soutiens m'a dit ça tout à l'heure, ce n'est pas une candidature en plus, c'est une candidature en moins. Une candidature en mieux. Donc voilà, les éléments de langage commencent à se faire. Mais effectivement, même pour nous ici, on pose la question à ses soutiens. Parce que ouais. Les jeunes, on a vu plein de jeunes encore, que tu pouvais voir dans les images d'ailleurs, des jeunes euphoriques parce que leur candidate avait gagné. Mais concrètement, les soutiens plus politiques, Guillaume Lacroix, qui est le patron du PRG, qui soutient Christiane Taubira,
le Parti radical de gauche,
on leur demande, ouais. Mais comment faire l'union? Comment faire l'union alors que Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et même Anne Hidalgo refusent depuis le début? Est-ce que ce scrutin va changer quelque chose? Et en fait, quand ils nous parlent, on comprend un peu ce qu'ils veulent faire par la suite. En fait, peu importe les candidats, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, ça a été très marqué dans le discours de Christiane Taubira. Je ne sais pas si tu as fait attention.
Ouais.
Elle a d'abord appelé les militants,
oui,
socialistes,
absolument,
les écologistes,
le terrain,
à la rejoindre avant de parler aux candidats. Et en gros, c'est ce qui va se passer, d'après ce qu'on comprend, c'est qu'ils vont essayer d'élargir, de shipper par-ci, par-là. Et puis, de fait, l'abandon des uns et des autres, ou en tout cas le schisme, sera inévitable.
Au-delà des différences idéologiques et des différents candidats, mais moi, je vois, enfin, là encore, je regardais ça devant ma télévision en écoutant d'abord l'annonce des résultats, il y a un vrai problème de cohérence. C'est-à-dire qu'on nous dit que c'est un processus démocratique innovant, qui justement recueille l'assentiment et les préférences des sympathisants de gauche, puisque c'était pas juste choisir un nom, mais les classer d'une certaine manière dans un système de notes. Et au bout du compte, il y a quoi? C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, qui a fait 7 millions de voix en 2017, qui était à quelques centaines de milliers de voix du second tour, au fond, est mis sur le même lot que ma marchandise, que personne ne connaît. Yannick Jadot, qui a fait 3 millions de voix aux européennes sur son nom, au fond, lui aussi, on lui intime, on lui met la pression pour qu'il se range derrière Christiane Taubira. J'ai même trouvé ça extrêmement dur pour Anne Hidalgo, parce que, quoi qu'on pense, elle est maire de Paris, c'est la maire de la première ville de France, elle est candidate d'un parti qui a été le parti qui a gouverné pendant de nombreuses années sur la Ve République, et au bout du compte, ça donne quoi? Madame Hidalgo, passable plus? Mais qui sont ces gens? Mais vraiment, je parle là des sympathisants. Qui sont ces gens pour donner des notes à des gens qui n'ont pas voulu prendre part à ce processus? Jadot, il voulait pas prendre part à ce processus. Pourquoi on lui met une note? Mélenchon, pourquoi on lui met une note? Franchement, il y avait quelque chose de contradictoire. De quel droit met-il des notes à des gens qui sont candidats, qui se battent pour défendre des idées? Après, ils peuvent regretter qu'ils soient pas unis. Mais j'ai trouvé ça d'une violence assez spectaculaire.
Là où je te rejoins, moi ce que j'ai trouvé violent dans le discours de Christiane Taubira, justement, c'est le fait de ne pas se cacher, avant même de parler des candidats qu'elle va appeler, c'est de dire « j'appelle les militants socialistes, les socialistes où qu'ils se trouvent, les écologistes à nous rejoindre ». Ça, je trouve ça un peu violent quand même,
ouais,
pour les candidats qui sont déclarés depuis des mois. En fait, les soutiens de Christiane Taubira, la seule chose qu'ils nous expliquent, c'est que c'est elle qui a eu le plus grand suffrage populaire de cette première séquence de campagne entre la primaire des Verts qui a rassemblé moins de personnes, Anne Hidalgo qui a été élue avec 22 000 voix, etc. Et donc c'est ça en fait qu'ils mettent en avant, c'est que c'est un vrai suffrage populaire.
Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde, beaucoup plus de gens qu'on imaginait, puisqu'ils sont passés en 250 000 à 450 000 inscrits en quelques semaines, sans qu'on sache exactement qui étaient ces gens.
Mais c'est vrai que ce qui... Tu sais, Jean-Luc Mélenchon, au dernier meeting que j'ai fait à Bordeaux la semaine dernière, me disait quelque chose que je trouvais assez juste. Il disait, en fait, ça fait deux ans, moi, que je me suis déclarée quasiment. Ça fait un an et demi. Ça fait deux ans que je travaille.
Et qu'il fait campagne.
Et là, en fait, on m'explique que d'un coup, je ne suis plus légitime.
Bah oui.
Et c'est vrai que ce processus, sous couvert de dire « nous, on veut faire l'union et eux ne veulent pas », moi, je trouve que c'est quand même extrêmement violent.
Ouais.
Et notamment, comme tu disais, avec Anne Hidalgo. Et Anne Hidalgo, tu sais... C'est une femme à très fort caractère et quelqu'un qui la connaissait bien me disait il y a plusieurs mois, si vous voulez faire flancher Anne Hidalgo, il ne faut surtout pas lui laisser croire que vous pourriez la remplacer. Il faut jusqu'au bout la soutenir, sinon vous allez la braquer. Et effectivement, on peut se dire aussi à quel moment cette action de Christiane Taubira ne va pas être vue par les gens de gauche. Alors je ne te parle pas de ces jeunes très idéalisés, militants, associatifs qui ont voté pour cette primaire et que l'on voit nous dans les meetings et les rassemblements de Christiane Taubira. Je ne parle pas de ces gens-là, mais plutôt les lecteurs de centre-gauche qui votent Macron, qui votaient avant le Parti Socialiste. Est-ce qu'il va apprécier cette démarche? Quel poids aura ce scrutin finalement dans les prochains jours? Est-ce qu'on va en parler encore longtemps sur l'antenne, tu vois, demain, après-demain? Est-ce qu'il va y avoir une dynamique? Et tu sais, quelque part, c'est un proche de Yannick Jadot qui me disait ce soir, finalement, c'est presque Yannick qui la remporte, en fait, cette primaire, en étant deuxième sans avoir voulu y participer.
Oui, et puis, encore une fois, pour dire un mot d'Anne Hidalgo, c'est que quoi qu'on pense de son positionnement politique, de ses chances de gagner et tout ça, et objectivement, elles sont limitées, vu son niveau dans les sondages, quand même, je suis pas certain que l'humilier comme elle a été humiliée ce soir, parce qu'encore une fois, t'étais à l'antenne, donc tu le voyais pas, mais sur l'écran de BFM TV et des autres chaînes d'info, il était écrit les résultats de la primaire. Donc, Madame Hidalgo, cinquième, passable plus, comme si elle était mise au piquet, c'est pas le meilleur moyen de la convaincre de se ranger derrière Christiane Taubira. Vraiment un côté assez humiliant, et je sais pas comment est-ce que le PS dans ces conditions-là pourrait se ranger derrière Christiane Taubira, à moins qu'il y ait des dissensions internes au PS et que ça explose dans les prochains jours. Mais je trouve ça extrêmement violent, quoi.
J'en discutais avec un de ses soutiens, Christiane Taubira, qui me disait que de toute façon, là, il y avait plein d'élus locaux qui allaient la rejoindre. Je lui ai dit déjà d'une, on a vu que le soutien des élus locaux, ça faisait pas gagner une élection. On l'a vu quand même avec Anne Hidalgo, qui avait le soutien de beaucoup de grands-mères, etc.
Ouais.
Et ça a pas entraîné une dynamique. Et puis par ailleurs, parlons juste politique. Si tu veux, dans les mois qui viennent, il n'y a pas que la présidentielle, il y a aussi une législative.
Ah, bien sûr.
Si aujourd'hui, moi, je suis élue locale socialiste, j'abandonne ma candidate à 2%, d'accord, mais est-ce que c'est pour aller vers une candidate qui aujourd'hui est à 5-6 dans les sondages? Je ne sais pas. Et puis par ailleurs, sous quelle étiquette je me présente aux législatives si je rejoins Christiane Taubira? Mettons, si elle fait 10-11% au premier tour, on sait que Christiane Taubira, elle ne veut pas fonder de parti politique à l'issue de cette élection. Donc où je vais, sous quelle étiquette je me présente, tu vois, tout ça à 2 mois et demi d'un premier tour, c'est très flou.
Oui, et puis la politique, je sais bien que beaucoup de responsables de partis de gauche, de droite, de partout sont fascinés par TikTok, Twitter et Facebook. Mais la politique, c'est aussi avoir des gens sur le terrain qui vont parler aux Français, qui collent des affiches, mais pas seulement, qui vont parler aux Français, qui vont convaincre, qui vont parler aux maires, qui vont parler aux responsables associatifs. C'est qui? Il y a combien de troupes derrière Christiane Taubira? Le Parti radical de gauche est certes implanté, mais pas à ce point-là. Et comment elle va financer sa campagne? Est-ce qu'elle va obtenir un prêt pour faire campagne? Franchement, c'est une question de semaines.
En termes de soutien, Christiane Taubira se targue, et ses soutiens nous le disent. Tu sais, il y a des comités Christiane Taubira un peu partout en France, et ils sont 97 000. Mais dans ces comités, moi, tous ceux que je vois, ce sont des gens extrêmement jeunes.
Bien sûr.
Donc, est-ce qu'ils vont, eux, pouvoir aller parler à un élu local, le convaincre de voter pour Christiane Taubira? J'en sais rien. Et financièrement, c'est une vraie question. Financièrement, c'est une vraie question.
Je vais faire deux comparaisons qui vont te sembler absurdes, mais Emmanuel Macron, lui aussi, a mené une campagne en dehors des partis. Mais, entre guillemets, il est parti beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que dès avril 2016, un an avant l'élection, il était déjà en train de monter son organisation En Marche. Dès septembre, d'une certaine manière, il est lancé, il est parti dans une campagne active. Et là, franchement, on est à 70 jours du premier tour. Et l'autre comparaison qui va te sembler absurde, mais moi, j'ai couvert les élections présidentielles américaines en 2016 et 2020, et j'ai vu notamment ce qu'avait réussi à faire Bernie Sanders, c'est-à-dire à monter des organisations extrêmement efficaces, s'appuyant notamment sur les jeunes dans les universités, en levant un espoir, alors que sur le papier, il semblait peu imaginable qu'il soit désigné candidat par le Parti démocrate, mais il a réussi à lever un espoir, à mobiliser beaucoup de gens derrière lui. Et en 2016 et en 2020, il a fait de très bons scores dans la primaire. Mais c'était une organisation infiniment plus structurée, massive, mobilisée, organisée, plus cohérente aussi politiquement. Franchement, ce soir, le discours de Christiane Taubira diffusé sur l'antenne, on résume à quoi enfin, je ne cherche pas la petite phrase, mais comment résumer le message de Christiane Taubira ce soir aux Français? C'est pas clair. Hein. Elle parlait beaucoup d'appareils, beaucoup des autres candidats, mais au fond, assez peu des Français.
Mais parce qu'elle parle en fait, mais et c'est là en fait qu'il va falloir se questionner et prendre un autre positionnement. J'en parlais un de ses très proches vendredi quand on la suivait à Bordeaux. Et je lui dis en fait moi ce que je vois dans les meetings de Christiane Taubira, ce sont des gens extrêmement jeunes, encore plus jeunes que dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon, et des gens qui ne sont pas politisés. Ils sont très, c'est ce que je te disais, très idéalistes, militants associatifs, très dans les droits humains, etc.
Et c'est très noble hein, d'être engagé quand
sûr,
on est jeune.
Bien sûr. Et ça, ça donne une ferveur de campagne que l'on n'a par exemple jamais vue dès le départ dans la campagne d'Anne Hidalgo. C'est vrai. Mais en revanche, à 2 mois et demi du premier tour, si lorsque votre objectif est quand même de chipper des voix du centre-gauche au président de la République, vous ne pouvez pas simplement vous asseoir sur cet électorat. Et dans son discours de ce soir, Christiane Taubira ne cherche pas encore à parler à un autre public oui. que ces jeunes exaltés devant elle. C'est-à-dire qu'elle cite des poètes, on sait qu'elle a cette capacité, cette très grande culture littéraire,
ouais,
etc. Et c'est ce qu'ils aiment. Mais par ailleurs, aujourd'hui, on rentre vraiment dans le dur. Et pour convaincre des élus, pour convaincre des responsables politiques de gauche, il va peut-être falloir avoir un autre discours, plus ancré dans le réel, plus ancré dans des propositions concrètes.
Bien sûr.
Du côté du Parti Socialiste, alors moi je prends mon risque, je vais peut-être me tromper, mais je ne crois pas à une fuite magistrale, je ne crois pas à une grosse fuite.
Bon.
J'y crois pas. Parce que il faut qu'il y ait une dynamique. En politique, c'est comme ça que ça fonctionne. S'il n'y a pas de dynamique, ça ne peut pas forcément fonctionner. Pour l'instant, la dynamique, elle s'est un peu fait attendre. Est-ce que ce vote va lui donner une dynamique? Je n'en sais rien. Mais ce qu'on entend quand même, c'est que pour l'instant, les sénateurs, il y en a aucun, même ceux qui suivaient, qui soutenaient Arnaud Montebourg, pour l'instant, ils sont mis du côté d'Hidalgo. Il n'y a personne qui va vers Christiane Taubira. Au sein du Parti Socialiste, il y a quand même toute une frange de responsables politiques, alors qu'ils représentent peut-être plus grand-chose aujourd'hui, mais qui ont une vraie antipathie envers Christiane Taubira, si tu veux. Elle est très clivante, tu le sais très bien. Donc, il y en a beaucoup qui ne veulent pas la suivre.
Mais quand on regarde,
donc, ça va être intéressant.
Quand on regarde ces candidats-là, Mélenchon, il a une forme de cohérence, il travaille, il est en campagne depuis plus d'un an. Voilà. Il y a Yannick Jadot, où là aussi, il y a une forme de cohérence autour de l'écologie politique, et il porte un projet qui a une forme de cohérence et une forme de logique dans son couloir. Fabien Roussel, de la même manière, on en a déjà parlé, c'est-à-dire qu'il mène une campagne qui est innovante pour le Parti communiste, qui s'attache notamment à parler à la France populaire. Bref. Donc voilà, ces trois candidats sont dans leur couloir et ont une forme de cohérence. La question, c'est tous les électeurs de centre-gauche, les millions d'électeurs de centre-gauche qui sont, entre guillemets, pas assez à gauche pour voter Mélenchon, pour caricaturer. Ils vont voter pour qui, ces gens-là? Ils vont voter pour qui? Aujourd'hui, dans les sondages, il y a beaucoup d'entre eux qui s'apprêtent à voter au premier tour Emmanuel Macron, pas par enthousiasme, mais faute d'autres offres.
Oui.
Et quand j'ai l'autre jour,
confirme, c'est ce qu'on entend sur le terrain.
Mais exactement. Et l'autre jour, quand j'ai je parlais avec Christiane Taubira quand elle est venue à BFM TV, oui. elle a échappé pour partir à un concert au théâtre du Châtelet, mais justement en la raccompagnant, je lui ai posé cette question. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y a autant de gens dans les sondages, des gens du centre-gauche qui s'apprêtent à aller voter Emmanuel Macron dès le premier tour, y compris des gens qui avaient voté Hamon en 2017, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des macronistes de la première heure. Et elle n'a pas répondu. Mais pas, en fait, je crois que c'est la vraie question. C'est la vraie question du moment. Pourquoi est-ce que la gauche, aujourd'hui, je crois qu'on en est à 7 candidatures, n'est pas capable de s'adresser à cet électorat de centre-gauche, l'électorat qui a fait voter... qui a fait réélire Hollande en 2012, l'électorat qui a permis à Jospin de gagner en 97, enfin à la majorité plurielle de gagner en 97, ces électeurs-là, ils n'ont pas disparu. Et je ne sais pas si Christian Taubira aujourd'hui est une alternative, certainement pour certains d'entre eux, mais est-ce que c'est l'alternative qui permet de rassembler cet électorat de centre-gauche qu'on aura pour appeler la deuxième gauche ou un électorat social-démocrate, enfin, peu importe les étiquettes.
Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, si tu veux rallier ces gens-là, il faut du fond. Les envolées lyriques qui plaisent à la jeunesse, elles ne vont pas suffire, surtout à 2 mois et demi. Tu sais, je fais parfois des parallèles quand même, même si elles me tendraient le cou si elles m'entendaient, mais avec l'histoire d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo et Christiane Taubira sont un peu dans une même dynamique, même si Christiane Taubira s'y est pris encore plus tard. Mais si tu veux arriver à une élection présidentielle pas vraiment préparée, sans avoir bétonné sur le fond, mais pas forcément sur les programmes. Je sais que je suis pénible avec ça, donc
je te dis régulièrement que les élections ne se font pas forcément sur les programmes.
Ouais. Mais même pas forcément sur les programmes, mais si tu veux, sur une vision de la France, là où tu veux emmener les Français, ce qu'avait complètement réussi à faire Emmanuel Macron en 2017.
Absolument.
C'est quoi la France que tu me vends ? Eh bien, ni Anne Hidalgo n'avait pas cette vision-là quand elle est partie en campagne à l'automne, et Christiane Taubira n'a pas du tout cette vision-là. Donc juste dire, j'arrive... Et puis ça va suffire parce que je suis la personnalité préférée à gauche. Ça me semble un peu léger quand effectivement t'as quand même un président de la République qui sort d'un quinquennat et qui continue à avoir un socle de gens de centre-gauche qui votent pour lui.
Alors je vais corriger un point que tu dis. Tu dis la France qu'elle vend. Je pense qu'elle ne vend pas la France. Elle défend une valeur, elle défend des idées. C'est tout à fait noble de défendre ces idées-là. Mais tu as raison sur le fond, je suis d'accord avec toi. Moi, je dirais les choses d'une autre manière. J'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un pendant le discours de Christiane Taubira en textotant avec quelqu'un. Et c'est Édouard Herriot, l'ancien figure de la Troisième République, maire de Lyon, président de l'Assemblée nationale, de la Chambre des députés, disait « La politique, c'est dire des choses aux gens. » Et au fond, qu'est-ce que Christiane Taubira dit aux gens ? Elle exprime un espoir, et peut-être que cet espoir va mobiliser. Elle exprime des valeurs. Elle exprime ce que pourrait être une gauche si elle était solide et en capacité de gagner. Mais au fond, est-ce qu'elle parle vraiment à l'ensemble des Français ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle cherche à parler à l'ensemble des Français.
En fait, ce qu'elle, d'ailleurs, globalement, ses proches ne nous disent pas qu'il vise absolument le second tour.
Non.
Donc c'est ça qui est difficile à comprendre. C'est ce que je lui ai posé la question après son meeting à Bordeaux. Je lui ai dit, mais en fait, qu'est-ce qui vous anime ? Parce qu'on sait bien que une fois l'élection passée, vous n'allez pas fonder votre parti, vous n'allez pas être députée ni être sénatrice. Elle nous a confirmé qu'elle ne voulait pas faire tout ça. Mais le second tour semble quand même très loin. Qu'est-ce qui vous anime, en fait ? Parce que si elle fait 10-11%, elle aura peut-être le sentiment d'avoir sauvé la gauche de l'humiliation.
Sauvé l'honneur,
et refusant finalement refusant le vote utile, un peu entre guillemets, ou cette question de sauver la gauche à Jean-Luc Mélenchon. Mais par ailleurs, sur le fond, tu sais, sur son meeting, il y a quand même quelque chose, moi, qui m'a vraiment accroché l'oreille, que mes confrères n'avaient pas relevé à Bordeaux. C'est elle parle à un moment de la Convention citoyenne. On sait que la Convention climat, citoyenne, tout ça, a été une réponse aux gilets jaunes, notamment. Et elle dit, dans son meeting, elle parle de la Convention citoyenne, et puis elle dit, et puis après, il y a eu les gilets jaunes. Donc, si tu veux, quelque part, ça traduit aussi que Christiane Taubira, pendant 5 ans, elle n'a pas été dans le paysage politique. Et là, pour moi, ça a quand même montré, si tu veux, une fragilité sur le fond politique qui était assez symptomatique.
Ouais. Bon.
Donc, voir si vraiment la dynamique part. C'est ça qu'on va regarder, en fait. Est-ce qu'il y aura une dynamique suite à ça ?
Je te laisse parce que ton taxi est arrivé, j'entends. Et donc, tu es arrivé.
Oui, on est devant la salle. Écoute, en tout cas, ses proches nous disent que ça va bouger dans les 48 heures. En termes de soutien, de ralliement, donc on va être à l'affût.
Effectivement, si dans 15 jours, elle est à 8% dans les sondages, dans un mois à 10% dans les sondages, va y avoir une pression très forte sur les autres. Et elle peut bénéficier d'un vote utile, mais pour l'instant, c'est la question qu'on se posait déjà en décembre, quand elle mettait le premier doigt de pied dans la mare de la présidentielle. On se disait, peut-être qu'elle sera à 10% dans les sondages ou à 12% dans les sondages, elle ne l'a pas été. Donc on va voir si elle arrive avec ça à créer une dynamique qui pour l'instant n'est pas flagrante, ou en tout cas ne s'impose pas aux autres. Bref, bonne soirée.
Tu vois, on s'ennuie pas à gauche.
On s'ennuie pas à gauche. Oui, mais pendant ce temps-là, la gauche, le total gauche, n'a jamais, dans les sondages, n'a jamais été aussi bas.
Bien sûr.
Avant une présidentielle.
Tu sais, c'est ce que je me suis dit en allant quand même cet après-midi devant le point éphémère pour cette primaire. Je me disais, depuis mi-août et les universités d'été des Verts, j'ai l'impression de faire que ça, des primaires et des colloques et des votes et on parle pas du reste, quoi. Et là, ça commence à être un peu tard.
Bon. Bonne soirée. Salut.
Merci. À plus, salut.
Merci d'avoir suivi cet épisode. À bientôt.